Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Alors, on est de retour en onde. On est heureux d'accueillir la députée provinciale du district de Sherbrooke, Madame Labrie. Bonjour, Madame Labrie.
Bonjour.
Alors, la rencontre du 18 janvier a porté sur les argumentations de loyers affectant particulièrement des personnes âgées, beaucoup de citoyens de la ville de Sherbrooke et du reste du Québec, dénonçant les augmentations de prix de logements et se sentent vulnérables par rapport aux propriétaires. Donc, on aura plusieurs questions par rapport à cette situation, puis par rapport à d'autres questions variées. Ma première question, ce sera, au courant du 11 janvier dernier, s'est tenue une manifestation de la part de l'Association des locataires de Sherbrooke pour protester contre les coupures de subventions de la part de la mairie. Est-ce que la ville de Sherbrooke ne serait pas en train de faire un pas en arrière sur la question de la protection des locataires?
Ben, écoutez, les organismes de défense de droits des locataires à travers le Québec, les autres ne sont pas financés par les municipalités. C'était vraiment une exception à l'échelle québécoise que Sherbrooke offre une subvention à l'Association des locataires de Sherbrooke. Donc, je les comprends de s'être posé la question. Maintenant, l'Association des locataires reçoit également un financement assez important de la part du SAQUET, une autre de la part du SHQ, de la SHQ, justement pour accomplir leur mission. Donc, malheureusement, l'organisme a décidé d'interrompre leur service de soutien et d'accompagnement aux locataires, mais techniquement, ils sont financés par le gouvernement du Québec pour faire ça.
OK.
Ouais, c'est pas le rôle des municipalités là, de financer la mission des organismes de défense de droit.
Oui, donc bonjour, Mme Labrie, je suis un des autres chroniqueurs sur place. En fait, oui, c'est ça. Donc, en suivi, excusez-nous, hein, c'est vraiment notre première fois, donc on a encore un petit peu de difficulté avec les entrevues. Merci de votre patience. En fait, ouais, c'est ça. Donc, comment votre bureau, en fait, là, de Sherbrooke gère-t-il les plaintes par rapport aux augmentations abusives de loyers, là, parce que clairement, ils doivent en avoir, surtout suite, justement, suite à l'abandon, justement, de cette subvention-là. Comment vous gérez ça?
Ben, effectivement, nous, on reçoit énormément de demandes de la part des citoyens pour les accompagner, parfois par rapport aux augmentations, parfois par rapport à des évictions, des reprises de logements, toutes sortes de situations que peuvent vivre les locataires en contexte de crise. Nous, on les accompagne de notre mieux. On est en train de monter une nouvelle section de notre site web pour répondre aux questions les plus fréquentes, orienter les gens vers les ressources. Il y en a plusieurs dans la région. L'Association des locataires, eux, ont arrêté là, à la fin du mois de décembre d'offrir de l'accompagnement individuel. Donc, c'est certain que ça entraîne une hausse de la demande à notre bureau. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il y en ait un organisme qui s'occupe de ça, de faire de la défense et de l'accompagnement individuel. Il y en a ailleurs à travers le Québec. En fait, on est une des seules régions à ne pas en avoir un organisme qui se consacre à ça. Donc, c'est certain que ça va être un besoin dans les prochaines années. Là, on aimerait voir émerger un organisme qui viendrait être complémentaire, finalement, là, à ce que va faire l'Association des locataires. Eux ont décidé de se concentrer sur la défense collective des droits, mais ça prend aussi un organisme qui fait d'accompagnement individuel. Donc, beaucoup d'endroits ont les deux. On a deux organismes complémentaires qui font ça. C'est ce qu'on aimerait voir se développer à Sherbrooke.
Ah, ben ça m'amène à une question, là. En fait, vous m'apprenez quelque chose, là, justement. On n'en a pas, justement, à Sherbrooke de services d'accompagnement. Est-ce que vous avez une hypothèse de pourquoi on n'aurait pas ce genre d'organisme-là ici?
Ben, pendant longtemps, l'Association des locataires faisait les deux. Là, ils ont décidé d'interrompre un des deux volets puis de se concentrer sur la défense collective des droits. C'est un choix qui leur appartient. Ils ont le droit de le faire. Mais le fait est que oui, il y a de la demande. Puis en pleine crise du logement, on a besoin d'organismes qui font l'accompagnement individuel. Là, il y a plusieurs autres organismes dans la région qui pallient à ça. Je vous dirais même avant, c'est un enjeu du fait que l'Association des locataires de Sherbrooke répondait aux besoins ou a tenté de répondre aux besoins à Sherbrooke. Mais dans l'ensemble de l'Estrie, il y a des besoins. Puis il n'y avait pas d'organisme qui s'occupait de ça. Donc, partout sur le territoire de l'Estrie, il y a d'autres organismes dont c'est pas la mission qui se retrouvent à faire de l'accompagnement pour la défense des droits de locataires. Je pense à des centres de femmes, par exemple, des ressources pour aînés qui se retrouvent à faire ça. Donc, on aimerait voir émerger, nous, une ressource pour l'Estrie qui ferait de l'accompagnement puis de la défense de droits pour les locataires.
Oui, parfait. Justement, là, précédemment dans l'émission, là, on a pu entendre justement une petite chronique sur la crise de santé au Québec. Et on voit justement que les travailleurs de la santé vont retourner sur le lieu de travail sans avoir gagné la moindre négociation. Et le système lui restera exactement dans le même. Vous, de quel œil vous voyez justement cette situation? Est-ce que vous voudriez faire que les... Excusez-moi. Et selon vous, que devraient faire les travailleurs là, pour obtenir leur revendication et de faire évaluer le système de santé qui est en crise autant pour les patients que les travailleurs?
C'est certain que quand on regarde les taux d'appui à l'offre là, qui est sur la table en ce moment, là, à l'entente de principe, on voit que dans beaucoup de secteurs, ils sont faibles. C'est vrai en santé, c'est vrai en éducation aussi. Ce que ça nous dit, c'est que les solutions qui sont là, c'est pas la panacée non plus. Beaucoup de gens risquent de continuer de quitter leur emploi dans le secteur public. Puis alors qu'on est déjà en train de vivre une crise importante de pénurie de main-d'œuvre, c'est certain que ça va continuer de causer des problèmes. Moi, ce que j'aurais voulu que ces négociations-là nous permettent, c'est de vraiment colmater la fuite, là, arrêter l'exode de notre personnel, puis s'assurer qu'on puisse retenir les nouvelles personnes qu'on embauche. Malheureusement, j'ai pas l'impression que ce qui est sur la table va être suffisant. Puis je vous dirais que en plus de ça, en santé en particulier, les ressources du ministère de la Santé vont être quasiment entièrement consacré à mettre en œuvre la réforme du B, qui se trouve à être la deuxième phase de la réforme Barrette qu'on vient de connaître dans les dernières années. Là, depuis 2015, la réforme Barrette s'est implantée avec toutes les conséquences que l'on connaît. La réforme du B qui s'en vient, c'est la poursuite de cette démarche de centralisation-là. Donc, ça va certainement entraîner beaucoup de brassage de gouvernance dans le réseau de la santé. Puis ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que ça avait entraîné le départ de beaucoup de monde. Puis c'est certain que ça m'inquiète.
Oui, parfait. Donc, avant qu'on continue, est-ce que vous y avez quelque chose que vous vouliez rajouter justement avant qu'on continue?
Nous, on aurait aimé voir le gouvernement puis le ministère de la Santé se concentrer sur résoudre le problème de personnel avant de se lancer dans une réforme de gouvernance. Je trouve que c'est pas de mettre nos énergies à la bonne place là, de se lancer dans une réforme comme ça alors qu'on a un enjeu de pénurie de personnel important qui entraîne des délais qui ont un impact sur les citoyens. Hein. C'est vrai en matière de chirurgie, de services en santé mentale. C'est vrai pour traiter les signalements à la protection de la jeunesse. Dans tout le réseau de la santé, en ce moment, il y a des délais importants. Puis malheureusement, là, les énergies consacrées par le ministère ne seront pas à ça dans les prochaines années. Ça va être à implanter un nouveau modèle de gouvernance.
Bien, parfait. Merci beaucoup, Mme Labrie. Avant qu'on se quitte pour la pause, est-ce que vous aviez d'autres choses à nous dire par rapport en lien avec les augmentations de loyers qui sont d'ailleurs assez conséquentes là? Justement, on avait vu tout à l'heure que c'était 4,6% là, je pense, pour l'augmentation moyenne.
En fait, ça, c'est la recommandation faite par le tribunal administratif du logement. Donc, c'est un calcul qu'ils font, eux, en fonction de la hausse du coût de la vie, de ce que pourrait être une hausse raisonnable. Donc, moi, j'invite tous les gens qui nous écoutent, quand ils vont recevoir leur avis d'augmentation de loyer, à se fier sur ça. C'est un indicateur. Hein? Les propriétaires ne sont pas obligés de suivre cette recommandation-là. S'il y a eu des travaux majeurs dans l'appartement, par exemple, ils pourraient demander une hausse plus élevée que 4,6%. Mais j'invite les locataires qui vont recevoir leur avis à vraiment évaluer si la hausse leur semble raisonnable en fonction de cette recommandation-là du tribunal du logement. Puis si ça leur semble pas raisonnable, les locataires doivent toujours se souvenir qu'ils ont le droit de refuser la hausse et de rester quand même dans leur logement, de renouveler leur bail même en refusant la hausse. C'est possible de faire ça, même si dans l'avis de renouvellement, le propriétaire l'a pas écrit. Ils l'oublient souvent, mais c'est quand même un droit que les locataires ont. Donc, il suffit de leur répondre en indiquant que vous allez garder votre logement, mais que vous refusez la hausse. Et à ce moment-là, le propriétaire peut soit négocier avec vous pour trouver un terrain d'entente pour une hausse qui va vous convenir, ou bien, si lui est certain que sa hausse est justifiée puis qu'il y a des factures à l'appui de ça, ben il peut aller se représenter devant le tribunal administratif du logement. Et puis, c'est le tribunal qui va trancher finalement sur quelle serait la hausse raisonnable. Donc, sachez-le, tous les locataires qui nous écoutent, là, vous avez ce droit, puis ça coûte rien comme processus. C'est vraiment entre les mains du propriétaire. Si vous refusez la hausse et que vous indiquez que vous renouvelez votre bail, c'est le propriétaire qui va devoir soit s'entendre avec vous sur un autre montant, soit aller plaider sa cause là, devant le tribunal du logement. Fait que si la hausse est vraiment déraisonnable puis qu'il n'y a pas eu de travaux qui justifient qu'elle soit si élevée, vous avez beaucoup de chances de l'emporter dans cette cause auprès du tribunal.
Parfait, merci beaucoup, Madame Labrie. Donc, on revient après la pause pour une petite chronique avec Marc-Antoine. Et je vous souhaite bonne fin de journée, Christine, et au plaisir de se reparler dans les prochains mois.
Ben, ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée à vous.